Chat perché, par Richard Keller, chapitre 6. Un courrier urgent émanant de France Télécom les attendait. Sagol en prit rapidement connaissance. L'identité des 5 abonnés sur liste rouge y figurait. Quelques lignes expliquaient que les communications passées depuis la cabine de Bordeaux étaient inexploitables. Par contre, la copie de la conversation échangée depuis une cabine grenobloise se trouvait consigné dans un fichier gravé sur le CD joint au pli. Gilles s'empressa d'introduire le disque dans le lecteur d'un ordinateur. Il cliqua sur le fichier et régla le son. Un homme s'adressait à Mélanie. Il lui disait qu'il souhaitait la revoir prochainement. Elle lui répondait qu'elle ne pouvait se rendre disponible actuellement. Il insistait. Elle lui répétait sur le même ton son refus par manque de temps et un bip d'occupation mit fin à la discussion. Les enquêteurs écoutèrent plusieurs fois de suite la conversation échangée entre la défunte et l'inconnu. Aucun indice n'apparut sur l'identité de l'interlocuteur, ni sur le but de sa demande. Ils étaient bien perplexes. La voix, qui ne possédait pas d'accent caractéristique, semblait jeune, certainement entre 20 et 35 ans. Ils en restèrent là, et décidèrent de se pencher sur le cas des abonnés en liste rouge. Les 5 correspondants habitaient tous dans le département. 3 concernaient des personnes de la ville, les 2 autres étaient plus étranges. Le numéro privé du directeur de la prison était noté sur la liste. Il se demandait quel lien reliait cette vieille dame et le responsable d'un établissement pénitentiaire. Le second numéro correspondait à celui d'un personnage sulfureux, mondialement connu, retiré dans un chalet d'alpage. Impliqué dans plusieurs coups d'État en Afrique subsaharienne, aucun gouvernement n'osait le livrer aux autorités des pays africains. Il possédait des informations sur tous les grands de la planète, ce qui lui permettait d'échapper à la justice. Que venait faire Mélanie dans un tel imbroglio? Les derniers abonnés, 3 femmes âgées, complétaient la liste. Sagol et Gilles réfléchissaient. Ils mettaient patiemment le Pulse en place. Pour l'instant, ils avaient repéré des pièces, mais ne pouvaient les disposer sans trouver les autres s'imbriquant avec. Ils comprenaient toute la complexité et la difficulté de ce dossier. Ils aimaient se frotter à des enquêtes nécessitant de nombreuses investigations. Le plaisir résidant dans les rencontres, bien sûr. Certaines étaient à la limite du supportable, mais d'autres permettaient de vivre de grands moments. La résolution de l'enquête devenait alors la cerise sur le gâteau. Sagol profita d'une invitation à la montagne pour emmener son épouse en week-end à Valoire, au pied du col du Galibier, où des amis y possédaient un chalet. Les époux Sagol et leurs compagnons firent quelques apparitions sur les pistes, mais passèrent bien plus de temps à la table du restaurant local où ils dégustèrent avec délectation les spécialités savoyardes. Gilles, quant à lui, se paya quelques toiles. Il profita du festival du cinéma transalpin. Il aimait beaucoup les acteurs italiens. Il préférait les vieux films, comme la Dolce Vita et les satires de Vittorio De Sica. C'est donc frais et dispo qu'ils attaquèrent une nouvelle semaine. Le temps s'était un peu radouci, le thermomètre flirtait avec des températures positives. Ils firent le point de la situation devant un bon café. Sur le bureau de Sagol, le rapport du médecin légiste attendait. Il ouvrit l'enveloppe, et ils lurent ensemble les points importants. La médecine légale utilisait un jargon qu'il convenait de bien connaître pour comprendre quelque chose. Tous les deux maîtrisaient parfaitement ce genre d'exercice. Le médecin commençait par une description de l'état du cadavre au moment de son admission dans le service. Venait ensuite la fourchette horaire du décès. La victime avait cessé de vivre le samedi 1er février entre 20h et 22h. Le spécialiste ne pouvait mieux affiner l'heure de la mort, le corps ayant été examiné plus de 40 heures après le décès. La vieille dame avait succombé par suffocation. Le légiste pensait qu'un sac plastique étanche placé sur sa tête l'avait privée de toute arrivée d'air. Des traces de pression sur le cou, ainsi que des ecchymoses sur les bras et les jambes, prouvaient qu'elle s'était débattue. L'installation sur le rocking chair était postérieure au décès. La rigidité des tissus révélait des lésions dues à la mise en position assise. En annexe, Le médecin précisait que des prélèvements effectués sous les ongles de la victime étaient acheminés vers le laboratoire central de la gendarmerie. Une autre enveloppe, émanant du même endroit, fut apportée par un collègue. Ils firent la moue à la lecture des documents. Les prélèvements soumis à analyse provenaient des vêtements de la victime. Aucune autre fibre n'avait été décelée. Ils se dirent qu'ils n'étaient pas prêts de trouver le dénouement de cette histoire. L'assassin s'était montré très prudent. Il n'avait laissé aucune marque susceptible de mettre les enquêteurs sur sa piste. Ils se remontèrent mutuellement le moral, car ils avaient beaucoup de gens à rencontrer, et le tueur ne pouvait tout dissimuler. Il fallait être le plus professionnel possible, et le vent tournerait. Ce qui les impressionnait, c'était qu'aucune empreinte n'apparaissait sur les chats et leurs supports. Comment arrivait-on à manipuler 32 félins empaillés sans poser un doigt quelque part? Ceci aussi restait un mystère. Un peu par dépit, ils se penchèrent sur la vie de l'ami des chats. Mélanie Pralon venait d'avoir 82 ans. La maison, du 12 rue du Carillon, était un bien familial. Ses parents y habitèrent jusqu'à leur mort en 1965. Une tragédie que cette année-là pour la pauvre femme. En l'espace de 6 mois, sa vie devint un cauchemar. Ses 4 êtres les plus chers disparurent. Le calendrier macabre posa son dévolu sur le 20 janvier pour commencer son œuvre funèbre. Son père et sa mère décédèrent dans la nuit, asphyxiés par un poêle déficient. L'oxyde de carbone les enveloppa sournoisement dans leur sommeil. Ils avaient 70 ans. La faucheuse lui laissa 5 mois de répit. Et, le jour de l'été, le 21 juin, elle frappa de nouveau. Rémi Pralon, son mari, et Christophe, son fils, partirent ensemble pour la journée. Le fils aimait suivre son père dans son travail. Il représentait une grande marque d'engins de travaux publics. Sa tournée les emmena ce jour-là par les routes des montagnes de Savoie. La pauvre femme ne revit jamais ses 2 amours. La voiture de son époux fut retrouvée 1 semaine plus tard, aplatie au fond d'un précipice où coulait un ruisseau souvent tumultueux. Les corps ne furent jamais retrouvés. Rémi venait de disparaître à l'âge de 45 ans. Son fils en avait 17. Pendant des mois, des recherches furent entreprises. Le lit du torrent inspecté, des battues sur les rives organisées. Un barrage fut fouillé par des plongeurs et des scaphandriers, en vain. Il fallut se rendre à l'évidence, la nature ne rendrait rien, ou alors bien plus tard. Mélanie et Rémi n'avaient qu'un enfant. Elle sombra dans une torpeur dont elle mit 3 ans à guérir, au sens médical du terme, errant comme un zombie dans les ruelles de la vieille ville. C'est là qu'elle fit la rencontre du peuple des chats. Ils furent son remède contre le suicide. Elle parlait avec eux et ils la comprenaient. Son âme en détresse les touchait au plus profond. Même les plus sauvages s'approchaient d'elle. Le grand-père de Mistigris devint son confident préféré. Il l'écoutait en silence et de temps en temps, en signe d'approbation, laissait échapper un miaulement. Peu à peu, elle revint à la vie et put reprendre son travail. Elle exerçait la profession d'enseignante. Elle dispensait des cours de français dans un lycée de la ville. C'était une bonne pédagogue, très aimée de ses élèves. Elle s'éloignait souvent des sentiers battus pour éveiller les jeunes à la littérature. Tout devenait prétexte à philosopher et tous les courants de pensée cohabitaient sans tabou dans son enseignement. Chaque soir, au retour du lycée, elle prenait ses gamelles et son sac de croquettes pour nourrir ses nouveaux amis. Elle compensa l'absence par le dévouement à une cause. Elle prit sa carte à la SPA et commença à se lier d'amitié avec Germaine Dercourt. Elle décida de déménager. Elle habitait avant le drame l'appartement du 2e étage, ses parents occupant le 1er. Elle fit venir une entreprise afin de rénover le 3e étage. Elle ne conserva aucun meuble. Elle courut les antiquaires et les brocanteurs pour procéder à des achats et des échanges. Elle voulait tourner la page d'un passé trop douloureux. Après quelques mois de travaux, elle s'installa dans son nouveau logis. 35 années s'étaient écoulées. L'appartement que découvrirent les gendarmes demeurait à l'identique du premier jour, à l'exception des 32 matous. Après toutes ces épreuves, elle n'avait que 48 ans. Encore jeune, elle ne songea nullement à refaire sa vie avec un autre compagnon. Elle préféra se retirer seule, le soir, parmi les livres. Pascal, Montaigne, Balzac, Confucius, Platon, Homère et bien d'autres occupèrent ses soirées. Elle sollicita de nouveau l'entreprise qui avait restauré son appartement. Elle fit de même avec les deux autres logements. Elle confia à une agence le soin de trouver des locataires sérieux. C'est ainsi qu'elle en vit passer de nombreux. Certains gardèrent le contact avec elle, d'autres disparurent à jamais. Ainsi va la vie. Parallèlement à sa passion pour les chats, elle ne manqua jamais d'aider les vagabonds du square. D'autres qu'elle auraient eu peur de ces clochards. Le monde des marginaux est un univers brutal. Elle inspirait le respect, jamais la crainte. En aucun cas, elle n'eut à se plaindre d'un mendiant. Elle donnait un peu d'argent, parfois des vêtements, et ne posait jamais de questions. Celui qui voulait parler trouvait face à lui une oreille attentive, une confidente, une amie. Avec celui qui ne souhaitait pas s'ouvrir, un regard suffisait. Il en disait plus que des mots. Christian Métayer portait la cinquantaine élégamment. Le cheveu grisonnant ondulait naturellement. Grand, environ 1,90 m, il portait une attention quasi maladive à sa ligne. Sa silhouette confirmait qu'il pratiquait une activité sportive régulière. Il courait tous les matins avant de se rendre au travail. Le samedi, il accomplissait comme un rituel une vingtaine de kilomètres à travers les chemins et sentiers de la campagne environnante. Il puisait dans le dépassement de soi l'oxygène lui permettant de supporter l'air vicié de sa semaine d'enfermement. Sagol et Gilles se présentèrent à la prison en fin de matinée. Après une brève attente pour vérification, un gardien vint les chercher dans le sas d'entrée et les accompagna jusqu'au bureau du directeur. Ce dernier les reçut avec amabilité. En professionnel du contact, il savait s'y prendre avec ses interlocuteurs. Il les invita à s'asseoir et leur proposa une boisson chaude ou froide. Ils préférèrent un verre d'eau fraîche. Le directeur se dirigea vers une fontaine à eau qui se trouvait dans un angle de la pièce. Il remplit les gobelets ainsi qu'un troisième pour lui. « Que me vaut cette visite, Sagol ?» Le chef, qui connaissait Christian Métayer, ne s'embarrassa pas de fioritures. Il alla droit au but. « Je suppose que vous connaissez Madame Mélanie Pralon. »« Je la connais depuis 35 ans, en effet. Mais qu'a-t-elle fait pour que vous veniez me parler d'elle ici ?»« Elle est décédée, Monsieur Métayer. » »« Assassinée. » Il resta debout pour boire son verre d'eau, devint blême, ne dit plus rien, et s'effondra sur un fauteuil, la tête baissée. Sagol le laissa tranquille pendant quelques secondes, puis reprit le fil de la conversation. « L'aviez-vous vu récemment ? En réalité, nous ne nous voyons pas souvent, une fois par an environ. Par contre, je l'appelais au moins une fois par trimestre. »« Quel lien vous unissez ? » demanda Sagol. « L'amitié, mon cher, l'amitié. Elle m'avait initié à la philosophie peu de temps après la perte de son fils et de son mari. Quand l'avez-vous appelée pour la dernière fois ? J'ai dû la voir au bout du fil jeudi ou vendredi passé. Je dirais plutôt vendredi. » Sagol ne fit aucun commentaire. Le relevé de France Télécom indiquait le vendredi 31 janvier à 15h50. La communication avait duré 6 minutes. « De quoi avez-vous parlé ? » ?»« Comme à l'habitude, nous échangeions nos points de vue sur des philosophes célèbres. Cette fois, nous avons échangé sur Confucius et ses pensées. » Malgré son âge, Mélanie possédait une bonne mémoire et savait vous ranger à son avis. Les trois hommes devisèrent un moment encore. Métayer voulait connaître la fin de son ami. Sagol lui donna quelques renseignements, mais il occulta volontairement la présence des 32 chats. Le directeur ne posa aucune question sur les animaux. C'était la preuve qu'il n'était pas au courant. Un détail n'échappa pas aux gendarmes. Il avait assisté, le soir du meurtre, au concert de Carillon à la chapelle du château. Étant avec un couple d'amis et compte tenu de l'heure tardive de la fin du récital, il ne s'était pas arrêté chez la vieille dame. Sagol nota les coordonnées des compagnons de M. Métayer. Il s'agissait d'un magistrat et d'une jeune femme l'accompagnant. Il semblait très affecté par le meurtre de son ami et ancien professeur. Il répondait trop spontanément pour être soupçonné d'assassinat. Comme il était plus de 12h30, à la fin de leur entretien, il proposa à ses interlocuteurs de partager le repas aux messes du personnel pénitentiaire. Ces derniers acceptèrent. Cela leur ferait gagner un temps précieux. La nourriture était de bonne qualité, mais les plats quelconques. Une heure plus tard, ils quittaient la prison. Ils apprirent incidemment qu'il existait un lien entre Christian Métayer et Fred Mirion, le mercenaire retiré des affaires qu'ils allaient auditionner. Comme par hasard, les deux hommes furent camarades de classe. Le directeur pensait que Fred et Mélanie avaient gardé le contact. Pour des raisons de sécurité évidentes, Sagol avait choisi de contacter Mirion avant de monter jusqu'à son nid d'aigle. L'homme s'exprimait avec le même accent que Christian Métayer, c'était à s'y méprendre. Les voix des deux hommes se ressemblaient beaucoup. La neige, accumulée sur les côtés de la route, empêchait le croisement avec un autre véhicule. Cela rendait difficile l'accès au chalet. Heureusement, le travail du chasse-neige permettait d'avancer. Il priait pour éviter une rencontre. La montée dura 50 minutes. Fred Mirion avait fourni des explications avec des repères faciles. Ils arrivèrent à la hauteur des derniers mélèzes, au-delà, plus d'arbres, la neige et son blanc manteau pour seul horizon. Après un léger replat, Sagol demanda à Gilles de se garer sur le parking à droite. Une plateforme aménagée par le chasse-neige permettait de ranger 2 ou 3 véhicules. Un Range Rover stationnait là, recouvert par les dernières chutes de neige. Ils descendirent de la Peugeot, mais il restait à parcourir quelques centaines de mètres dans un sentier enneigé. 10 minutes s'écoulèrent, ils aperçurent le vieux chalet en bois. Une fumée blanche sortait de la cheminée. Sur le balcon, un homme avec des jumelles en bandoulière les accueillit. Fred Mirion avait fière allure. Un peu plus petit que Christian Métayer, il retira sa casquette à l'arrivée des enquêteurs. Le cheveu blond et ras laissait apparaître une cicatrice au milieu du sommet du crâne. Le mercenaire, en habitué, précédait toujours la question. « Souvenir de voyage, messieurs. Une machette mal aiguisée et vous sauvez votre peau. » Sagol fit les présentations sur le balcon. « Beau paysage, monsieur Mirion. C'est vrai, mais nous serons mieux à l'intérieur. » Il ouvrit la porte et entra après ses deux hôtes. Des objets régionaux meublaient l'intérieur. Une table ronde, 4 chaises et un buffet finement décoré par des fleurs peintes sur les portes. Tel était le mobilier. Un petit poêle rond dégageait une chaleur bienvenue. Sagol, bien qu'appréciant le site, voulut commencer rapidement l'audition du baroudeur. « Depuis quand connaissez-vous Madame Pralon ?»« Longtemps. Je dirais au moins 35 ans. Mais qu'a-t-elle à voir avec moi aujourd'hui, messieurs ?»« Dans le cadre d'une enquête, je voudrais connaître la date de votre dernière rencontre. Il y a longtemps, car je sors rarement d'ici, sauf pour le ravitaillement, et surtout j'évite de planifier mon activité. Il y a des barbouzes qui n'attendent qu'un faux pas de ma part. Vous n'avez pas répondu à ma question, martela le chef. Répétez la question, s'il vous plaît. La date de votre dernière rencontre avec Mélanie. Il y a environ 4 ans. Aucun contact depuis cette date. Je lui téléphone de temps en temps. Je l'ai appelé il y a quelques jours. Nous avons longuement parlé du bon vieux temps. Savait-elle que vous étiez revenu en France ? Nous ne parlons que littérature et philosophie. Ça nous suffit pour passer un bon moment ensemble. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre amie est morte samedi 1er février, assassinée chez elle. Fred Mirion eut la même réaction que son ancien camarade de classe. Il était prostré. Une femme exceptionnelle. Il n'en existe pas un grand nombre autour de nous, de cette qualité. Dieu bénisse son âme. Ce qui surprenait toujours Sagol, c'était la tendresse de ses durs. Des fiers à bras, capables de tuer de sang-froid, rompus aux situations les plus critiques, et qui, devant la fin d'un proche, pouvait se transformer pour n'être que fragilité et chagrin. Le soleil, avare de février, passa la tête de l'autre côté de la montagne. Il disposait d'une heure pour redescendre sans encombre. Ils posèrent quelques questions supplémentaires et 10 minutes plus tard, Gilles s'installa au volant de la Peugeot. La descente dans la vallée se passa sans problème. Sagol eut tout loisir d'apprécier le paysage entre chien et loup. Il était 18h10 lorsque la voiture arriva dans la cour de la brigade. Le chauffage du véhicule étant défectueux, ils coururent vite se mettre au chaud dans leur bureau. Les deux visites de la journée étaient intéressantes. La personnalité des deux individus montrait à quel point des êtres issus d'un milieu identique et ayant reçu la même éducation pouvaient choisir des chemins différents. Les amis d'enfance s'étaient retrouvés ensemble au lycée. Ils avaient décroché le baccalauréat avec mention bien et s'étaient inscrits à la faculté de lettres d'Aix-en-Provence. Ils avaient partagé le même studio et parfois les mêmes filles. Tous deux possédaient une maîtrise en lettres classiques. Aucun n'avait choisi de professer. Métayer choisit la fonction publique. Son copain Fred prit un sac à dos et fit le tour du monde. Leur chemin se sépara à ce moment-là, mais leur amitié restait intacte. Le barbouze expliqua en philosophant que c'était son ami directeur de prison qui avait mal tourné. Il emprunta une phrase d'un philosophe, dont Sagol ne se souvenait que du sens, reprenant à son compte une citation du Cid de Corneille. « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. » L'amitié et l'affection profonde des deux copains d'enfance envers la vieille dame, ainsi que leur formation, permettaient de les rayer de la liste des suspects. Sagol et Gilles en acquirent la conviction. Un pense-bête collé sur le téléphone de Sagol lui indiquait qu'il devait rappeler Maître Léchaud. Il regarda sa montre et pensa que le notaire ne se trouvait peut-être plus à son étude. Une voix féminine répondit. Il reconnut la jeune femme à son accent. C'était la collaboratrice qui avait apporté le dossier dans son bureau, celle qui avait régalé les pupilles de Gilles. Elle passa immédiatement la communication à son patron. « Bonsoir, maître. Chef Sagol, vous m'avez appelé ?»« Bonsoir, monsieur Sagol. En effet, c'est au sujet de madame Pralon. Je suis en mesure de répondre à certaines questions que vous m'avez posées jeudi. »« Dites-moi tout, cher maître. »« Oh, ce sera vite fait. Ma cliente n'a plus de famille directe ou indirecte, et elle n'a pas rédigé de testament. En êtes-vous sûr ?»« Sûr et certain, sauf à mettre en doute le fichier central de l'ordre des notaires. » De plus, elle souhaitait rédiger un tel document, mais l'assassin a été le plus rapide. Que vont devenir ses biens? C'est l'État qui va hériter. D'expérience, il faudra plusieurs mois avant qu'il ne bouge. Pour ce qui me concerne, je transmettrai l'information aux autorités compétentes. Je vous remercie de m'avoir tenu informé, maître. Bonne soirée, et qui sait, à bientôt. Je vous remercie, monsieur Sagol. Trouvez le coupable. Je compte sur vous. Bonne soirée. Gilles avait entendu les propos du notaire. Il dit que l'héritage n'était pas le mobile du crime. Sagol en convint volontiers. Mais alors, quel était donc ce foutu mobile ?